Et ce soir, Marie, vous allez nous parler de lieux communs, de clichés, d'idées reçues, qui sont des notions très utilisées et controversées dans tous les arts.
Oui, Arnaud. Alors, Itzhak Kolberg, historien de l'art, dirige un ouvrage paru cette année aux éditions du CNRS, « Lieux communs, l'art du cliché ». Il réunit une quinzaine de textes d'universitaires et d'artistes pour tenter de souligner l'ambiguïté fondamentale de cette notion.
Vous ne pouvez pas avoir l'évocation d'un clair de lune ou d'un lac, vous voyez, au moment d'une scène d'amour, sans que ça fasse lieu commun au 19e. Un lieu commun que tous les gens ressentent comme quelque chose d'absolument positif. Hein. Pour être tout à fait bien dans une scène d'amour, c'est mieux s'il y a la lune, et si possible, si on est sur une barque avec la personne, sur un lac, quoi.
Mal aimé et mal compris, le lieu commun constitue pourtant le ciment indispensable à l'existence d'un lien social, car il permet le partage. C'est ce que vient de nous dire Pierre-Marc de Biasi dans l'émission « Tire ta langue, les clichés du lieu commun », et c'est ce que disait aussi Jean-Paul Sartre. Ce beau mot désigne sans doute les pensées les plus rebattues, mais c'est qu'elles sont devenues le lieu de rencontre de la communauté. Chacun s'y retrouve et y retrouve l'autre. Les lieux communs ne sont pas que l'expression d'un universel, mais ils formulent au contraire des images et des constructions mentales qui prennent leur source dans un contexte donné. Elles sont forgées par et pour une société déterminée qui parle d'elle-même et de son temps. Dans son acceptation courante, pourtant, le terme a pris un sens péjoratif, qui est celui de la banalité ou du stéréotype. Pour la création artistique qui vit depuis l'époque romantique sous le régime de la singularité, le lieu commun a longtemps été ressenti comme problématique. Mais à partir des années 60, les artistes se révoltent contre la dictature de l'originalité. Alors que les lieux communs s'affichaient autrefois comme les idées reçues, que l'art avait mission de révoquer, ils s'affirment aujourd'hui en tant que tels comme le matériau crucial du geste créateur. Mais alors le cliché, il serait donc le prêt-à-porter de la pensée ordinaire, qui nous permettrait de ne pas penser par nous-mêmes. Et toute l'ambiguïté, vous l'avez bien compris Arnaud, du concept est justement là. Quand on critique l'emploi d'un cliché, on reproche implicitement à celui qui l'utilise de ne pas avoir pensé par lui-même, d'avoir fait preuve d'une certaine paresse intellectuelle. Or, rien n'empêche un cliché d'exprimer parfaitement ce que le jeu veut dire. Le cliché joue un rôle indispensable dans la communication, comme nous l'explique Christian Boltanski dans sa masterclass sur France Culture.
On ne peut parler que de ce que l'autre sait. Et forcément, si vous dites « j'ai mal à la tête », vous allez ressentir votre mal de tête, qui n'est pas le mien. Et donc, ce que j'envoie comme message est une sorte de stimulus qui permet à chacun de comprendre quelque chose ou d'imaginer quelque chose. Mais il faut que cette chose soit commune. Tout l'art, c'est entre le plus singulier et le plus universel, parce qu'on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Et chacun va prendre ça comme une chose qui est pour lui. Le rêve, c'est qu'ils disent « mais comment il sait ça sur moi ?» Comment il sait quelle était l'odeur du café le matin avant d'aller à l'école? Et naturellement, c'est l'odeur que je connaissais, mais que chacun doit prendre comme son odeur. Donc il y a toujours ce sorte de jeu entre le plus personnel et le plus collectif.
Paul Valéry, lui, refuse l'évidence et dit, enfin plutôt c'est André Breton qui dit « Je n'écrirai jamais « La marquise est sortie à 5 heures ». Alors, à force de vouloir éviter les clichés, les poncifs et la notion de banalité, on ne peut plus rien écrire, car si l'on raconte une histoire, on risque d'être obligé, à un moment donné, de préciser que la marquise elle est bien sortie à 5 heures. André Gide, lui, est totalement définitif. On ne s'entend que sur les lieux communs. Sans terrain banal, la société n'est pas possible.
Oui, mais si je vous suis bien, Marie, on a besoin de ce terrain commun pour échanger, mais on craint ces banalités par souci de se distinguer.
Voilà, on n'en a jamais fini avec le lieu commun, Arnaud, qui, comme le phénix, renaît de ses cendres. Alors ça, c'est Antoine Compagnon qui l'écrit. L'intérêt inépuisable du lieu commun semble venir de son ambivalence incorrigible. À la fois, il fait penser et il empêche de penser. Il permet de parler ou d'écrire et il contraint la parole ou l'écriture. C'est la bête noire et en même temps, comme toute bête noire, un animal familier, apprivoisé, dont on ne pourrait se passer. Flaubert, lui, je suis obligée de citer encore une citation de Flaubert, mais c'est la lettre à Louise Collet, et c'est une des citations typiques qui revient quand on parle de lieu commun. Le lieu commun n'est manié que par les imbéciles ou par les très grands. Les natures médiocres l'évitent, et elles recherchent l'ingénieux ou l'accidenté. Le dernier texte de l'ouvrage dont nous parlons ce soir, intitulé « Tu n'auras point de lieu commun », est signé par la poétesse israélienne Rivka Myriam. Sans doute, le lieu commun est-il un lieu desséché qui a perdu son éclat, mais comme une fleur séchée que l'on trouve entre les feuillets d'un livre, il garde encore une petite lumière, le souvenir qui l'a habité. C'est une vision un petit peu plus consensuelle que Flaubert que l'on vient de citer juste avant. Ce que l'on retient en fait de toutes ces interventions, c'est que le lieu commun cesse d'être creux, pour peu qu'on s'y intéresse, et pour ne pas tomber à mon tour dans le cliché, c'est par la préface de Pascal Horry que je conclue. Il décrit le dessin de Ross Shast dans le New Yorker, The Last Thanksgiving, autour d'une grande table de ce rituel qu'est Thanksgiving. La table est totalement vide, on retrouve 10 convives, sinistres, privés de toute convivialité. L'un est gluten-free, l'autre est macrobiotique, un troisième les strictly kasher, et ainsi de suite pour les convives autour de cette table. Pas facile de faire du commun avec une société de masse composée d'individualistes. Non pas que l'individu soit si peu de choses, mais au contraire parce qu'il est trop. Ce n'est pas le vide qui nous menace, mais le trop-plein. Le lieu commun, au moins, nous laisser respirer.
Merci Marie Sorbier.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.